club de la presse.
Bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue à Jean Vitus Albertini de France 3 Corse et à Guillermo Padoani de Corse Matin. Notre invité aujourd'hui est Monseigneur Olivier de Germay, évêque de Corse. Merci Monseigneur d'avoir répondu à notre invitation.
Avec joie.
Alors les gilets jaunes ne désarment pas, même si les violences, compte tenu de la mise en place d'importantes forces de police, quand 89 000 à Paris, ont été moindres, encore que elles se sont décentralisées en province, notamment à Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille et d'autres villes, et en Corse, à Bastia. Des centaines de points de blocage ont été enregistrés samedi, même si la mobilisation a tendance à faiblir, la détermination demeure. Quoi qu'il en soit, à ce stade, le problème est politique. Les gilets jaunes ont réussi à entraîner le gouvernement dans un processus de recul. C'est toute la politique sociale qui devra peu ou prou être revue. Les premières mesures annoncées n'ont pas satisfait et l'on attend le discours d'Emmanuel Macron ce soir. Le président de la République a beaucoup consulté ce week-end partis politiques et syndicats, car on peut dire qu'il a échoué dans ses réformes. Il faudra qu'il trouve autre chose, un échec qui pourra se ressentir aux prochaines élections européennes. Alors Jean Vitus, qu'est-ce qu'on attend du discours de ce soir ? Un discours qui réponde notamment aux revendications des gilets jaunes, et d'après ce qu'on en sait, ça semble ne pas être le cas.
Oui, je pense qu'il y a une attente très forte pour un changement de cap, et visiblement, c'est pas ce qui est programmé, selon les informations qui sont distillées ici et là par nos confrères parisiens. Mais c'est vrai que la parole, désormais, est aux politiques. Alors, c'est un paradoxe, puisque d'un autre côté, il y a une espèce de rejet de la part de ce mouvement qui est transparti, je dirais, vis-à-vis de la politique et vis-à-vis des hommes politiques, et des structures elles-mêmes. Et on attend aussi, malgré tout, de ces politiques, une réponse. Et la réponse, c'est le premier d'entre eux, évidemment, c'est Macron qui doit la donner. Alors, il y a des réponses ponctuelles, on le sait, sur des revendications bien précises, que ce soit sur les taxes, bon là, visiblement, c'est réglé pour cette année, mais aussi sur la CSG, le SMIG, et plus généralement sur la hausse des salaires. Maintenant, il faut qu'ils répondent aussi à autre chose, c'est sur l'inégalité fiscale qui frappe les gens, sur ce dogme européen, là, avec les 3% de contraintes budgétaires, ça. Je pense que les gens en ont par-dessus la tête. L'avenir des services publics aussi, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a aussi une demande qui vient de la part des territoires. Elle est très importante. Je pense que peut-être c'est masqué par le reste des revendications salariales, mais il y a une volonté aussi en faveur de la décentralisation et de gérer les affaires au plus près, parce qu'ils voient que l'État est très loin, les gens, et qu'il a tendance à les abandonner. Donc ils veulent un retour pour qu'on s'occupe véritablement de leurs affaires. Et puis, globalement, un réajustement de la politique, arrêter cette politique et à travers la personnalité de Macron cette fois-ci, cette espèce de mépris de classe qu'il a développé depuis 18 mois. Ici, on en a eu quand même quelques exemples assez édifiants. Dire s'il arrive à répondre à cela, peut-être qu'il peut sauver ce qui est encore sauvable. Pour l'instant, ça me paraît quand même difficile. Il ne faut pas que ce soit simplement de la communication, parce que je vois que ce matin, il fait une espèce de grande conférence sociale avec tout le monde, et que ce soir, il fait des annonces. Alors, où les annonces sont déjà prêtes, et finalement, cette conférence avec l'ensemble des partenaires, c'est de la poudre aux yeux, parce que les décisions sont déjà prises, comme il a fait jusqu'à présent. Ou alors, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On va voir ce soir à 20h, mais je ne pense pas qu'il faille attendre de changement de cap fondamental.
Guillermo Padoani, Jean Vitus le disait, il y a aussi une attente des territoires, mais les territoires, que peuvent-ils faire en ce qui concerne notamment l'élévation du niveau de vie ? Ils n'ont pas ni les moyens ni la compétence.
Ah, exactement. Le ministre Le Drian disait le temps des l'a dit hier, le temps des territoires est venu. Très bien, mais avec quels moyens, comment? Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas dans un État fédéraliste et fédéral, donc il est compliqué avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, il est compliqué de pouvoir entrevoir une liberté soudaine et bienvenue pour les territoires et pour la gestion des problématiques qui relèvent encore des prérogatives de l'État. Vous parliez de l'emploi, justement, de la précarité, donc ce sont encore des domaines qui relèvent de l'État. Voilà. Après, il est difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup d'attentes autour du discours d'Emmanuel Macron. Attention que justement cette attente ne soit pas douchée. Cet espoir, ne soit pas douché par un positionnement qui demeurerait inchangé. Bon, on voit mal. Il y a eu quelques petits signes. On annule la taxe, la hausse de la taxe au mois de janvier. Bon, il y a des petits signes, mais qui sont absolument insuffisants et qui ne répondent absolument pas à la préoccupation actuelle. J'ai bien peur que le discours de ce soir soit un énième discours. Je ne sais pas si la classe politique et notamment Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris vraiment conscience de l'enjeu.
Non, puis il faut faire attention à une chose, c'est que cet appel-là, ça ressemble quand même à un appel au secours à tous les corps intermédiaires qu'on appelle à l'Élysée en
quatrième qu'on a détruit.
Vitesse, les présidents des associations de régions, de départements. Là, finalement, tout le monde doit participer. Mais c'est un peu curieux quand on entend un certain nombre d'informations, en particulier, il verserait une prime de déplacement pour les gens qui ont besoin d'utiliser la voiture. Mais cette prime de déplacement, elle serait financée par les régions. Déjà, ouais. L'État se désengage. Quant au salaire, il dit, bon, le SMIG, pas question de l'augmenter, d'après ce qu'on sait. Et en revanche, ils inciteraient les entreprises à augmenter les salaires. Ce qui fait que les salaires, c'est les entreprises, les déplacements, les primes déplacements, c'est les régions, mais l'État dans tout ça.
Et on prend le risque de créer encore plus d'inégalités, parce que malgré tout, il doit y avoir une égalité devant l'impôt, une égalité dans la redistribution du revenu et donc une politique sociale égalitaire. Et visiblement, on semble se démarquer sur les entreprises qui reçoivent d'ailleurs de l'argent, 40 milliards, avec le CICE, malgré tout.
Et pas les TPE,
pas les TPE.
Plus grosses entreprises.
Absolument.
Et par la seule existence de l'ISF, déjà, l'égalité devant l'impôt n'existe pas.
Absolument. Et déjà. Donc, on verra bien. Quoi qu'il en soit, alors Macron est regardé aussi à l'étranger, et il est aussi critiqué par beaucoup de chefs d'État, et bizarrement, par ceux qui ont eux-mêmes besoin de modifier leur comportement et leur politique, comme Salvini en Italie, Trump aux États-Unis ou Erdogan, qui s'en sont donnés à cœur joie. Bon, ils sont quand même un peu malvenus pour donner des leçons.
Quand on en donne aux autres, au bout d'un moment, eux, ils en profitent pour en donner lorsque l'occasion se présente.
C'est le retour, c'est un retour.
C'est sûr, ce sont pas des exemples.
C'est un retour de bâton. Quand vous voyez Erdogan qui dénonce la violence des autorités françaises, c'est quand même. Enfin, voilà. Mais c'est limite. C'est un pied de nez. C'est un pied de nez. C'est de la caricature. Mais il ose le faire puisque justement, la France, à travers son président et à travers son gouvernement, passe son temps à donner des leçons au monde entier. Et forcément, des leçons, c'est toujours pareil. Hein, dénoncer la violence du régime turc, c'est tout à fait louable et ça s'entend parfaitement. Sauf que c'est toujours pareil, hein. C'est bien aussi de balayer devant sa porte et de voir aussi qu'il y a une autre forme de violence quotidienne qui est exercée en France. C'est une violence sociale et une violence où on parlait de l'inégalité devant l'impôt. Aujourd'hui, le pays va très mal.
Alors, Monseigneur, les Gilets jaunes ont-ils raison de combattre la pauvreté, leur pauvreté et les inégalités ? Que peut dire l'Église ?
Ben, moi, je dirais d'abord qu'il faut prendre en compte ce que manifeste ce mouvement, parce qu'incontestablement, il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre pays, avec, ça a été dit tout à l'heure, des inégalités croissantes, une précarité qui ne cesse de progresser. C'est le cas en Corse, hein, si j'ai bien compris, la Corse est une des régions les plus pauvres de France. Donc ça, il faut le prendre en compte. Après, il faut des mesures, oui, certainement, et on attend tous ce que va dire le président Macron ce soir. Moi, personnellement, si vous voulez, je crois pas que faire haro sur le président, sur un seul homme, ça soit la bonne solution. Comme si tout dépendait de lui. Moi, je crois que, bien sûr, et on peut critiquer, c'est pas tellement mon rôle d'ailleurs, telle ou telle mesure, mais je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Cette crise, d'abord, elle s'inscrit dans un contexte plus large, qui est un contexte international, la mondialisation, la crise migratoire. Et puis, je crois que c'est une crise de société. Donc, si simplement les mesures qui ressortent, c'est de dire on va augmenter le pouvoir d'achat, je crois qu'il le faut pour les classes les plus pauvres, c'est une nécessité. Mais si c'est la seule mesure, on ne résout rien. Je crois que, il me semble que c'est le président Simeoni qui disait dans un article qu'on nous sommes à la fin d'un cycle. Je crois que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Nous sommes dans un système global qui ne fonctionne plus. Un système qui était basé uniquement sur la production et la consommation. Et ce système-là, on croyait qu'il allait rendre les gens plus heureux. En fait, il n'a fait qu'accroître les inégalités. Et surtout, il fait que les gens ont perdu le sens. Les gens se demandent pourquoi ils se lèvent le matin pour aller travailler et fonctionner. Ils ont toujours plus de besoins parce que la société de consommation ne cesse de nous créer des besoins. Mais à un moment donné, tout ça tourne à vide. Donc je crois qu'il faut avoir une vision global, c'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise morale, et je vous étonnerai pas en vous disant que c'est aussi une crise spirituelle. Donc voilà, je pense que du coup la démocratie, c'est pas aussi dire c'est que le président qui est responsable, c'est tout le peuple qui est responsable. Je crois qu'il faut changer les mentalités, avoir un autre rapport à la vie. C'est un débat de fond qu'il faut lancer. Au fond, quel monde voulons-nous pour demain?
Sauf que lui, il s'est présenté à la fois comme un homme du changement. C'était pendant sa campagne présidentielle. Et ensuite, une fois qu'il a été élu, il s'est présenté comme Jupiter. Donc, d'une certaine manière, c'est lui-même qui s'est mis en position de focaliser tous les ressentiments et toutes les oppositions. Parce que visiblement, à part lui, on a l'impression que dans ce pays, un gouvernement dont on ne connaît pas le quart du nombre des ministres, c'est quand même assez étonnant. Quant au Premier ministre, il s'est réveillé maintenant parce que Macron, visiblement, l'a poussé pour qu'il soit en première ligne. Mais pendant les deux semaines qu'a duré le conflit, on ne l'a pas entendu. Donc c'est lui qui focalise aujourd'hui tous ses ressentiments.
Je ne dis pas qu'il soit en dessous de toute critique, etc., bien sûr. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si on veut réformer notre société, c'est tout le monde qui doit se sentir concerné. Prenez la question de l'écologie, de la crise des déchets, etc. On peut toujours prendre des mesures. Si chacun d'entre nous ne sentons pas concernés, ça n'avance pas. La démocratie, c'est aussi ça. C'est tout le monde est responsable, finalement.
Et d'associer les corps intermédiaires, comme ils ont toujours été faits, et qui ne le sont plus depuis 17 mois.
Il faut quand même
on les a détruits.
Il faut quand même faire remarquer, même si on peut dire qu'il y a une responsabilité globale dans l'organisation de la société, notamment sur l'écologie. Il y a une encyclique du pape, Laudato Si, qui dit un certain nombre de choses. Mais malgré tout, en France, celui qui est le patron de tout, c'est le président de la République, c'est les institutions qui veulent ça. Il n'y a pas véritablement un parlementarisme. On met de côté les élus, mais quand on en a besoin, on va à la rescousse pour leur faire supporter, et ça semble se dessiner, un certain nombre de choses dont ils n'ont pas ni les moyens ni la compétence pour le faire. Donc c'est le président de la République qui est, lui, responsable de peut-être trop de choses. Et là, il faut peut-être penser demain à une transformation, à une réforme des institutions. Parce qu'aujourd'hui, il est peut-être anormal que tout le monde se tourne vers le président de la République, l'homme providentiel pour tout. C'est peut-être anormal, mais aujourd'hui, c'est comme ça parce que les institutions l'imposent.
L'aspect monarchique de cette Ve République n'était pas fait pour déplaire à à Emmanuel Macron.
Ni aux autres, d'ailleurs.
Ni aux autres. Mais la différence, il s'appuie aussi sur la technostructure qui est revenue en force. Aujourd'hui, qui commande aujourd'hui l'État, c'est le corps préfectoral et c'est l'institution de Bercy. C'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ça, les territoires, les élus locaux, ça sont complètement ignorés dans ce dispositif-là. On verra s'ils vont revenir au premier plan aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça s'est passé comme ça depuis l'élection de Macron.
Alors, en Corse, le 18 décembre, il y aura une conférence sociale qui sera organisée à l'initiative de la collectivité. Alors, ces conférences ont été voulues, justement, par Emmanuel Macron. Alors, une conférence identique sera d'ailleurs organisée en Bretagne ce même jour. Mais on le disait tout à l'heure, que peuvent faire les régions, et notamment la Corse, dans quel domaine elles pourraient intervenir pour essayer d'atténuer un peu ce qui tombe sur le dos des pauvres gens. Peut-être intervenir sur les transports, Jean Vitus.
Oui, sur les transports. Bon, le prix de l'avion, le passage entre Nice, Marseille et la Corse va baisser. Mais bon, je veux dire, c'est pas l'essentiel. Sur le prix de l'essence, par exemple, on interrogeait la préfète l'autre jour en demandant si elle avait la possibilité, elle, de bloquer les prix de l'essence, enfin de fixer un prix plafond. Elle dit oui, mais il faut un décret du Premier ministre. On en revient toujours à la même chose. On en revient. Si on veut vraiment, véritablement, alors les prix en France sont libres, mais si on veut véritablement changer les choses de ce point de vue, il faut à ce moment-là une vraie intervention de l'État. Mais dans des domaines où il y aurait du concret. Pas seulement d'aller s'occuper de choses et d'autres qui relèvent des fois de la collectivité territoriale. C'est pas seulement de la politique à ce niveau-là qu'il faut faire.
Les prix bloqués, c'est le cas dans les DOM, il me semble.
Pour l'essence.
Pour l'essence, bien sûr. Hein. Voilà,
mais c'est une décision qui est intervenue au niveau central et non pas par la décision des DOM ou des TOM. Ouais,
tout à fait.
C'est certain. Hein.
Ah oui. Mais justement, ce non-agir et ce manque de réactivité du pouvoir central, on en revient toujours à la même chose. Si le pouvoir central est réactif et qu'il répond à un moment donné aux attentes et aux spécificités des territoires, bon, très bien. Il n'est pas question de demander une décentralisation à tout prix. Sauf que ce pouvoir central est un mammouth qui met un temps infini à se mouvoir et à répondre une bonne fois pour toutes aux aspirations locales, puisque et on le voit bien, c'est quotidien. Donc là aussi la contestation est tout à fait légitime.
Vous demandiez, Pierre-Louis, la possibilité d'intervention de la collectivité territoriale. Alors peut-être a-t-elle les moyens concernant les transports, effectivement, sur le passage du fret. Alors ça a déjà diminué. Mais pour qu'il y ait une incidence sur les prix à la consommation. Parce que pour l'instant, le fret a diminué. Bon, il se trouve que les distributeurs gens de la grande distribution sont aussi des transporteurs. Donc, il y a des diminutions de coûts pour eux, mais ça ne se traduit pas pour le consommateur.
Sur alors, les prix, que, c'est certain.
Non, ça se traduit pas. Non, les prix, non seulement ils baissent pas, mais ils augmentent.
Ils augmentent, oui.
Donc peut-être que là...
Non, mais c'est pour ça que je disais que peut faire cette conférence sociale, à part, j'en sais rien, apporter son soutien aux revendications, parce qu'elle ne pourra pas répondre sur le SMIC, elle ne pourra pas répondre sur les impôts, elle ne pourra pas répondre sur un certain nombre de domaines. Monseigneur, on arrive à la fin de notre première partie. Que peut dire l'évêque aux élus du territoire ?
Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on prend comme principe de se mettre autour d'une table et de parler, c'est plutôt une bonne chose. Parce que souvent, il y a beaucoup de confrontations et de problèmes qui sont liés au manque de dialogue. Donc, je ne peux que favoriser ce genre d'initiative. Après, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elle va régler tous les problèmes ? J'en sais rien. Mais ça sera peut-être l'occasion d'aller mettre son nez dans des choses qui n'apparaissent pas très clairement, des situations de monopole ou autre chose. Donc, je crois qu'effectivement, la question peut paraître assez circonstanciée, mais la question du prix de l'essence et des transports, pour le dynamisme économique d'une île comme la Corse, je crois que c'est une question essentielle. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un déficit d'écoute des gens, de la part des décideurs, des responsables ?
Je crois que c'est pas simplement de la part des décideurs. Je crois que c'est un climat général de notre société qui est marqué, c'est pas un scoop, hein, par l'individualisme. Et l'individualisme fait que on est tous le nez dans notre écran et peut-être pas suffisamment à l'écoute les uns des autres. Je crois qu'il faut, comme le dit le pape François, développer une culture du dialogue pas simplement avec ceux qui font partie de notre cercle d'amis, etc., mais aussi avec des gens qui sont différents, qui pensent différemment. Je crois que c'est à partir du dialogue qu'on peut s'enrichir.
Merci Monseigneur, on vous retrouve dans un petit moment pour la deuxième partie. Vous êtes l'invité de ce Club de la Presse.
RCFM, le Club de la Presse.
Deuxième partie du Club de la Presse, avec nous Guillermo Padoani de Corse ce matin, Jean Vitus Albertini de France 3 Corse, votre serviteur Pierre-Louis Alessandri. L'invité aujourd'hui est Monseigneur Olivier de Germay, évêque de Corse. Monseigneur, dans le dernier numéro d'Église de Corse, vous évoquez la situation de l'Église insulaire. La transmission de la foi est en crise. Les prêtres s'efforcent d'assurer le service minimum. Il faut changer de priorité, écrivez-vous, c'est-à-dire.
Je crois que l'Église, mais vous savez, l'Église, elle est en réforme permanente, hein, donc de toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je crois qu'il faut qu'elle se renouvelle dans ce qui est le cœur de sa mission, c'est l'évangélisation. Et donc, je pense que nous sommes sortis d'une époque un peu dite de chrétienté, où finalement la plupart des gens faisaient leur communion, se mariaient à l'Église, etc. Il y avait tout ce contexte. Ce qui fait que les prêtres, ils fonctionnaient, ils étaient au service de ces familles, de ces gens. Ils ont fait un travail admirable d'ailleurs. Maintenant, on se rend compte qu'on devient minoritaire. Il faut retrouver ce dynamisme missionnaire qui était celui des premiers chrétiens et qu'on a vu à différentes périodes de l'Église. C'est-à-dire qu'en particulier, ce que nous avons lancé une réflexion sur dans le diocèse et ce qu'on appelle une école de la mission. Pour essayer de voir, au fond, notre foi. Nous croyons que notre foi, c'est quand même un cadeau, c'est quelque chose, un message qui est magnifique, mais comment faire en sorte pour que ce message puisse rejoindre les préoccupations, les interrogations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Je crois que c'est ça le travail de l'évangélisation. C'est pour ça que c'est toujours à refaire, parce que le monde, il bouge, le monde, il évolue. Donc, nous avons un message que nous croyons être magnifique. Il faut que nous arrivions à davantage l'inculturer, j'allais dire, en tout cas, le mettre en correspondance avec les attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui, de voir comment l'évangile, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui me rejoint au cœur de ma vie et qui doit transformer ma vie.
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas un changement de doctrine que vous évoquez ?
Non, c'est le message, il est toujours le même, la doctrine est la même. Ce qui change,
mais si la société
c'est la façon.
Évolue.
Oui, c'est la façon de transmettre ce message qui doit effectivement évoluer.
C'est juste un problème de méthode alors.
On peut appeler ça comme ça, un problème de méthode, d'inculturation.
Alors, vous regrettez, Monseigneur, que l'on sollicite beaucoup les prêtres pour des obsèques, par exemple, et puis après, plus rien. La foi, l'Église sont oubliées. Alors, si nous ne changeons pas nos façons de faire, nous nous préparons, dites-vous, à un enterrement de première classe. Mais finalement, pourquoi ne pas prendre les gens là où ils sont, à un enterrement par exemple, ils sont là, occupons-nous d'eux à ce moment-là ?
Oui, alors prendre les gens là où ils sont, c'est précisément mon souci. Et c'est pour ça que je souhaiterais que les prêtres puissent, pas simplement que les prêtres d'ailleurs, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui l'Église, c'est pas que les prêtres, hein, ils collaborent avec des diacres, avec des religieux, mais aussi avec des laïcs. Et qu'on puisse être plus disponible justement pour faire un travail d'accompagnement. Prendre les gens là où ils en sont, quelles sont leurs préoccupations, leurs interrogations, où ils en sont dans leur foi, et comment on va les accompagner sur un itinéraire de foi. Attention, les obsèques, c'est un lieu important, j'ai jamais dit le contraire. C'est un lieu où les gens se rassemblent, où il peut y avoir une parole, le prêtre va manifester d'abord la compassion, et puis aussi une parole d'espérance. Bien sûr que ce sont des lieux d'importants. Simplement, je dis, attention, ne faisons pas que ça. Si on se laisse prendre uniquement par ça, on sera plus disponible pour le reste. Aujourd'hui, on a la chance, et ça c'est quand même quelque chose de positif, d'avoir de plus en plus d'adultes qui manifestent un intérêt pour la foi, qui se posent des vraies questions sur le sens de leur vie, sur Dieu, etc. Que ce soit des adultes non baptisés ou que ce soit des adultes qui ont fait, disons, qui ont été baptisés, qui ont fait des communions, qui ont fait un peu de catéchisme. Et donc nous, j'ai dire là, il ne faut pas louper le coche. Il faut qu'on soit présent pour répondre à cette attente et encore une fois être capable d'accompagner les gens.
Alors là aussi, être présent, mais comment fait-on pour être présent lorsqu'il y a, bah, il y a également une crise de vocation qui touche l'Église avec de moins en moins de prêtres? Comment est-ce qu'on fait pour être aujourd'hui plus présent? Et deux questions en une, est-ce que ce n'est pas finalement un problème de message? Est-ce que l'Église a su adapter son message justement pour toucher les cœurs et pour toucher les consciences? Est-ce que l'Église a su adapter ce message? On n'a pas l'impression. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le problème?
Alors, la première partie de votre question, oui. Je crois qu'effectivement, il, à un moment donné, il faut faire un choix de priorité. On manque de prêtres, c'est vrai, il y a un problème de disponibilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça vaut le coup de passer du temps, par exemple, avec les parents qui mettent leur enfant en catéchisme, avec les fiancés qui demandent à se préparer au mariage. Vous voyez bien que si on est là uniquement pour faire des célébrations, ça reste quand même assez pauvre la relation. Donc il faut investir dans ces moments, on va passer du temps avec les gens, les écouter, leur parler, vous voyez. Encore une fois, on est dans une logique de l'accompagnement. Après, votre question, qui est une question qui revient sans cesse, c'est parce que le message de l'Église, à la fois il doit évoluer, se réformer en permanence, et en même temps il porte en son cœur un invariant, si vous voulez, et qui, selon les époques, va être plus ou moins à contre-courant de la société. Donc, il s'agit pas pour nous, et c'est la grande liberté de l'Église, c'est que nous, on n'agit pas en fonction de ce que les gens vont penser, des élections, etc. Notre but n'est pas d'être bien vu du monde, notre but est d'être au service des désirs profonds des personnes, vous voyez. Et donc, il y a certains aspects du message qu'il faut effectivement faire évoluer. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. En permanence, comment j'adapte le contenu de la foi au monde d'aujourd'hui. Et en même temps, ne pas avoir peur parfois d'être à contre-courant, parce que précisément, c'est au service de l'humanité.
Alors, et vous devez aussi être présent sur tous les problèmes quotidiens des gens. Par exemple, là, par rapport à ce grand conflit social qui touche l'ensemble du pays, on n'a pas entendu les évêques de France sur ce point. Ça fait 3 semaines que ça dure.
Ils se sont exprimés, mais peut-être qu'ils sont pas suffisamment relayés par les médias, hein, parce qu'il y a eu un communiqué de l'archevêque de Paris, il y a un communiqué du président de la conférence des évêques de France. Moi-même, je me suis exprimé. Donc oui, mais c'est pas parce que nous ne sommes pas relayés dans les médias que nous restons silencieux.
Sur quel message est-ce que vous délivrez par rapport à ces conflits?
Je dois dire que d'abord, l'Église, elle est présente dans tous les lieux de précarité depuis longtemps. Je regarde en particulier ce que fait le Secours catholique en Corse ou ailleurs. C'est l'Église, ça. Vous voyez, l'Église, c'est pas simplement l'évêque qui va se mettre en première ligne. Alors, j'ai vu qu'il y avait un prêtre qui était parti rejoindre les Gilets jaunes et qui a été bénir la foule, etc. Bon, ça peut être, on en pense ce qu'on en veut, c'est sympathique, mais le fond du problème, c'est pas là, c'est cette présence au quotidien. Je crois que l'Église, c'est pas que les évêques, c'est pas non plus que les prêtres, ce sont des fidèles qui, au quotidien, sont dans ces lieux de précarité.
Il y a eu une exhortation apostolique, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui a été faite par le pape François en 2013, je crois, hein, et qui disait qu'il y avait nécessité à avoir un ordre économique, politique et légal qui soit juste. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, cet ordre économique et social est juste?
Non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, dans un système qui génère de plus en plus d'injustices. Et je prétends pas résoudre la question en 30 secondes, mais je pense que un des problèmes, c'est cet individualisme croissant qui fait que chacun revendique des droits individuels et à la limite, peu importe les autres. Donc je crois qu'il faut retrouver cette solidarité qui est quand même une valeur partagée, il me semble, dans notre pays, et la fraternité dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qu'il soit réel, que ce soit pas simplement des mots vides. Est-ce que je suis prêt peut-être à avoir une vie plus sobre pour être davantage partagé davantage et puis être davantage en lien avec les autres? Je crois que un des problèmes de notre société se trouve là.
Mais et alors une vie plus sobre, cela s'entend parfaitement, mais lorsque vous avez à la tête du pays un gouvernement, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, hein, peu importe son orientation politique, mais lorsque vous avez un gouvernement qui manque justement à sa mission de justice, notamment de justice fiscale, de justice sociale, on peut être altruiste, on peut être plus solidaire, on peut être finalement plus dans le partage, mais lorsque vous avez des injustices qui sont j'allais dire institutionnalisées sur certains points, on parlait de l'ISF, on parlait des choses comme ça, de l'inégalité finalement devant l'impôt, la solidarité finalement ne peut pas tout régler. À un moment donné, lorsque vous avez une tête au sommet de l'État qui institutionnalise l'inégalité, c'est compliqué.
Oui, mais je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés de droite comme de gauche ont été confrontés à des problèmes sociaux majeurs. Peut-être parce qu'ils savent pas faire, qu'ils font des erreurs de choix politiques. Peut-être aussi parce qu'il y a une sorte d'impatience qui fait qu'on a du mal à attendre une réforme. Vous savez bien qu'une réforme, elle peut pas porter du fruit en 5 minutes. Et donc, il y a toujours au départ, dans la mise en œuvre d'une réforme, on passe par une phase où on voit pas les fruits. Et peut-être que certains ont l'impression d'être ceux qui vont payer pour les autres. Mais je crois aussi que un président de la République, il est le fruit d'une société. C'est quand même nous qui l'avons élu. Donc, je pense pas qu'il faut tout faire reposer sur une personne.
Alors,
c'est un système qui est malade.
Monseigneur, comment l'Église peut-elle redonner sens au partage et à l'accueil, qui sont des notions vilipendées par certains gouvernements d'extrême droite en particulier, populistes, qui se développent en Europe et qui ont de l'accueil, notamment des migrants, une vision pour le moins exclusive. Hein. Comment on peut redonner sens à ces valeurs et d'ailleurs, il y a des chrétiens, il y a des catholiques qui partagent ces sentiments-là, hélas. Comment l'Église peut-elle redonner sens à l'accueil et au partage?
Moi, je crois que la fraternité, si on veut retrouver une fraternité réelle qui se traduise dans les actes, il faut revenir à la paternité. Il n'y a pas de fraternité sans un père commun. Et c'est là où je disais tout à l'heure que la crise est une crise spirituelle. On a voulu évacuer Dieu de nos sociétés, mais une société sans Dieu, une société sans transcendance, elle implose, parce que c'est précisément un principe transcendant qui permet de faire l'unité d'une société dans la diversité de ses membres. Donc je crois que fondamentalement, le problème, il est spirituel. Après, c'est sûr que l'Église, elle prend la parole sur des sujets plus concrets. Vous avez évoqué l'immigration. Bien sûr qu'il peut y avoir parmi les chrétiens tout le panel des opinions sur l'immigration. L'Église, elle s'exprime. Après, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais elle donne des orientations. En l'occurrence, elle nous met en garde contre des raisonnements simplistes, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, que ce soit de dire d'agiter des peurs en disant c'est l'invasion, etc., c'est la catastrophe, toute l'Afrique va débarquer en France, ou que ce soit en sens inverse, en disant tout le monde il est beau et tout le monde est gentil et l'immigration n'est pas un problème. Non, l'Église, elle nous dit, il faut affronter ce problème avec responsabilité. Il y a déjà un principe de base pour nous chrétiens, c'est que quand quelqu'un arrive et démuni ou pire, risque sa vie en traversant la Méditerranée, on peut pas rester les bras croisés. Il faut venir en aide aux personnes.
La France aurait dû accueillir l'Aquarius, clairement.
En tout cas, il ne faut pas rester les bras croisés. Quelle est la société ? Moi, je dirais que sur cette question de l'immigration, et c'est là où les personnes qui veulent fermer les frontières, à mon avis, ont une vision utopique, parce que je crois que fermer les frontières ne résout pas l'immigration, elle la rend plus dangereuse et plus mauvaise encore, si on peut dire. Donc, je crois que c'est un problème, là aussi, qu'il faut régler à l'échelle de la planète. C'est un problème international, les phénomènes migratoires. C'est d'abord, derrière, il y a la question de l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres, qui est croissante, qui est liée à la question de l'écologie, parce que ce sont les pays pauvres qui font le frais de la détérioration de l'environnement. Donc il faut, je crois, et Il me semble que le traité de Marrakech va plutôt dans le bon sens, même si je ne l'ai pas étudié dans le détail. Mais je crois qu'il faut une concertation entre les pays pour faire face à ce phénomène, un échange d'informations et puis une coordination de l'action, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester. C'est un phénomène sur le long terme, c'est pas une question politique du moment, c'est quelque chose vraiment sur le long terme qu'il faut prendre à bras le corps.
Là aussi, la question des migrants, lorsque vous voyez qu'il y a 28 pays membres, et que pendant des années, l'Europe a laissé l'Italie se débrouiller seule face à l'Italie qui était géographiquement parlant et naturellement la figure de proue finalement en Méditerranée face à la Libye et à la Tunisie. Il y a 28 pays membres, vous parlez de solidarité tout à l'heure, il suffirait tout simplement d'avoir des quotas pour chaque pays, qui réduirait considérablement finalement le nombre d'accueils par pays, et finalement cet accueil se ferait plus en douceur en tout cas, et de façon plus naturelle. Là aussi c'est à la fois de la solidarité, mais c'est aussi un problème politique, et un problème politique que l'on ne règle pas.
C'est le problème, je crois, de l'Europe surtout. C'est qu'il faut retrouver ce qui était un peu à l'origine de l'Europe, qui était vraiment d'avoir une solidarité face à l'époque, c'était le problème de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a réussi, d'ailleurs, l'Europe a fait de belles choses pour préserver la paix depuis 50 ans. Mais je crois qu'effectivement, la crise morale, spirituelle dont je parlais tout à l'heure, elle touche l'Europe. Et on voit bien les réflexes un petit peu de protectionnisme de chaque État qui se replie sur lui-même. Je crois qu'il faut retrouver ces grandes intuitions de l'Europe. L'Europe, elle a un rôle à jouer dans le monde aujourd'hui. Sinon, si on fait rien et si on continue à se diviser entre nous, ce sont les autres grandes puissances qui vont prendre le dessus, que ce soit la Russie, les États-Unis, la Chine, qui n'ont pas forcément ce patrimoine de valeurs que nous avons, nous, en Europe. Et c'est pour ça que je crois que l'Europe a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui dans le monde.
Alors, Monseigneur, la conférence des évêques de France a fait une déclaration en novembre sur le problème gravissime de la pédophilie chez de nombreux prêtres. Beaucoup d'ailleurs ont jugé cette déclaration un peu retenue par rapport aux mesures concernant les auteurs d'actes pédophiles. La parole du pape François apparaît même plus sévère. Bon, vous avez annoncé qu'une commission indépendante sera constituée. Vous avez écouté lors de votre conférence épiscopale des couples qui ont été des personnes qui ont été victimes de prêtres pédophiles. Comment l'Église peut ne plus être retenue sur ce problème gravissime ?
Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que cette crise a été, enfin pour un évêque de ma génération, c'était un peu un séisme, c'était un choc. On n'imaginait pas qu'il pouvait exister de tels scandales au sein de l'Église. Je crois qu'on a pris des mesures fortes. Peut-être ça a été un peu long, mais on a pris des mesures très fortes et l'écoute des victimes à Lourdes, ça a été un moment très fort et effectivement ça nous permet de toucher davantage du doigt le traumatisme que peut causer ce genre de scandale. Après, je dirais, alors, il faut le prendre avec un peu entre guillemets, dans le sens où je cherche pas à excuser l'Église. Mais je crois que il faudrait pas que l'Église soit simplement le bouc émissaire d'une société qui a quand même un problème avec cette question de la pédophilie. Aujourd'hui, on sait très bien, les chiffres le montrent, que l'immense majorité des cas d'abus sexuels se passent dans les familles. Donc, vous voyez, c'est un phénomène de société. Je comprends tout à fait que quand ça arrive dans l'Église, ça fait du scandale, parce qu'on attend autre chose de l'Église. Et encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il faut pour que l'Église soit un lieu sûr pour nos enfants. Mais c'est un phénomène beaucoup plus large. Toutes les institutions françaises sont marquées par ça, que ça soit l'éducation nationale, ça que ce soit dans le sport, que ça soit un peu partout. Et surtout les familles.
Donc, oui, mais Monseigneur, vous connaissez le principe évangélique. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais la poutre qui est dans ton œil.
Oui, mais c'est ce que nous avons fait. Je crois que nous avons fait un gros travail. J'oserais presque dire que nous pourrions inspirer d'autres institutions qui pourraient faire la même chose.
Aujourd'hui, quand on est confronté justement à cette, vous disiez, on attend autre chose de l'Église, effectivement, c'est la solidarité, c'est la proximité avec avec son prochain, c'est la protection des plus faibles. C'est ça, en tout cas, l'Église. Et aujourd'hui, forcément, lorsque vous avez des scandales comme ça, avec des proportions parfois énormes, on a vu aux États-Unis, en Irlande, avec des proportions, en tout cas, d'hommes d'Église qui sont absolument colossales et qui sont effrayantes. Est-ce que vous parliez de phénomènes de société? Parce que l'Église étant dans le monde, forcément, elle n'est pas, on ne peut pas l'en exclure. Mais est-ce que ce n'est pas, est-ce que l'Église a tout fait dans ses institutions pour finalement éviter cela? Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer que dans certaines régions du monde, il y a une concentration particulièrement forte et inquiétante? Très inquiétante, beaucoup plus que dans l'éducation ou dans d'autres domaines. Est-ce que l'Église n'a pas manqué, n'a pas fermé les yeux de façon évidente sur certains problèmes?
Je dirais que l'Église, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir agi au fond comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, on fermait les yeux sur ces questions-là. Ouais. Certains hommes politiques, même connus aujourd'hui, à l'époque, parlaient de leurs relations sexuelles avec les adolescents comme si c'était, voilà, on pensait que tout était permis, que ça ne posait pas de problème. Et les affaires de pédophilie, toute la société a fermé les yeux. Donc je pense qu'effectivement, on peut reprocher à l'Église d'avoir été pris dans l'esprit du monde, si vous voulez, d'avoir fait comme tout le monde, cette peur de mettre en cause l'institution. Oui, tout à fait, on peut lui reprocher ça. Maintenant, nous sommes sortis de cette époque-là et je crois que l'Église, elle est presque en pointe maintenant dans cette lutte contre la pédophilie. Mais moi, je voudrais quand même dire, parce que il faudrait pas non plus laisser croire que la majorité des prêtres sont des tordus, sont des... Aujourd'hui, je parle en tant qu'évêque de Corse, où il n'y a eu aucun cas de pédophilie à ma connaissance, l'immense majorité des prêtres font un travail remarquable au quotidien sur le terrain, ils sont à l'écoute des gens, que ce soit avec des enfants, des personnes âgées, des adultes. Donc, il faudrait pas non plus jeter un peu le soupçon, si vous voulez. Je dis ça parce que vous savez qu'il y a quand même eu deux prêtres qui se sont suicidés, alors que pénalement, il n'y avait rien, quoi. Mais ils avaient été mis en cause pour des gestes maladroits. Donc, il faut faire quand même attention. Il y a quand même une présence, une disponibilité des prêtres que moi je tiens à souligner.
Alors, juste pour en venir au problème de société, pourquoi cette hostilité des évêques de France à la PMA?
Alors la PMA, c'est un vaste sujet.
C'est la procréation
sujet.
Médicale assistée.
Oui, procréation médicalement assistée. Plus précisément, le projet de loi, ça serait de l'ouvrir aux couples de femmes ou aux femmes seules. Vous savez que le gouvernement a souhaité qu'il y ait un débat sur ce sujet. Il y a eu des états généraux. Donc l'Église, elle a pris part au débat. Et il se trouve que personnellement, je fais partie du groupe des évêques qui réfléchit sur ces questions. Et dans quelques jours, je rencontrerai avec notre groupe, nous rencontrerons Monsieur Delfrécy, qui est le président du Conseil consultatif national d'éthique. Donc nous sommes vraiment en dialogue, hein, et nous essayons d'apporter un éclairage, de mettre en garde en particulier contre les effets sociaux justement de la PMA ouverte à tous, sur le fait que revendiquer, donner droit à toutes les revendications individuelles peut avoir des conséquences sociales. Donc essayer de prendre un peu de hauteur de vue sur ces questions-là. Pour la question de la PMA, si vous voulez, c'est d'abord il y a la prise en compte d'un désir d'enfant. Hein. Le désir d'enfant en soi, on peut dire qu'il est légitime. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez naturel. Hein.
Ça, c'est pas contradictoire avec votre doctrine.
Ah non, le désir d'enfant en soi, il est tout à fait bon. Après, la réflexion, ça va être de dire, mais le désir d'enfant, oui, mais jusqu'où et à quel prix? Parce que ça engage plus que la personne, un désir d'enfant, puisque l'expression elle-même le dit, il y a un enfant. Vous voyez. Donc nous essayons de dire, attention, on comprend tout à fait le désir d'enfant, même si ça peut paraître paradoxal de vouloir un enfant quand on a fait le choix d'une vie, par exemple deux femmes qui vivent ensemble, hein, qui est un choix qui par nature est stérile, bon ça on le sait, le désir d'enfant peut paraître paradoxal, surtout de revendiquer l'utilisation de la médecine, qui la médecine est là pour soigner une pathologie, là il n'y a pas de pathologie, donc bon, mais au-delà du côté paradoxal, c'est réfléchissons sur les conséquences pour l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit à l'enfant peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les droits de l'enfant? Vous savez que la France a signé la Convention européenne des droits de l'enfant qui stipule qu'un enfant, il a droit quand même de connaître son père et sa mère. Or là, on va faire abstraction du père. Si vous voulez, c'est l'effacement du père. Et là, on pense que ça vaut le coup de réfléchir parce qu'il y a certainement des conséquences très importantes pour l'enfant, pour la société, parce que c'est la rupture de filiation. Si vous voulez, la première fois depuis l'histoire de l'humanité, jusqu'à maintenant, un être humain, il a une double filiation paternelle et maternelle. Maintenant, on va brouiller tout ça. Ça risque d'avoir des conséquences psychique, psychologique, social.
Monseigneur, le missel romain traduit en langue corse, on semble être arrivé sur la bonne voie puisque la conférence des évêques a donné son feu vert. Reste l'aval de Rome. Il faudra attendre longtemps ou non?
Alors, je vous dirais que je sais pas répondre à cette question parce qu'il faut que très prochainement, je vais rentrer en contact avec la congrégation à Rome qui s'occupe de ces questions-là. En tout cas, on a franchi une étape importante puisque vous l'avez dit, la conférence des évêques de France a voté il fallait qu'elle donne son avis sur cette question. Et puis, surtout, depuis plusieurs années, depuis que je suis là, il y a une commission qui s'est mise en place, qui a fait un gros travail de traduction à partir du texte latin, hein, parce que c'était ça la question. Il existait déjà des traductions de la messe en Corse, mais c'était pas à partir du latin. Ça doit toujours partir du latin, du texte, ce qu'on appelle l'édition typique. Mais donc, on a franchi une étape importante et j'espère que, sans trop tarder, mais je peux pas trop donner de date, on pourra avoir cette messe. Comme je dis souvent, il s'agira pas évidemment de célébrer la messe en Corse en permanence, mais pour quelques fêtes importantes. Je vois, hier, j'étais dans le village de Guagno, ils m'ont dit, alors, est-ce qu'on pourra célébrer la messe pour la fête patronale? J'ai dit, oui, ça devrait venir bientôt.
Alors, si Monseigneur, les gens le demandent, une messe en Corse, ou un enterrement, ou voilà, c'est tout à fait possible.
C'est ça, ça fait partie des demandes qui sont prévues pour les enterrements en particulier.
Alors, oui. On arrive à l'issue de notre entretien, Monseigneur. La fête de Noël, c'est dans quelques jours. Quel message de Noël pour les chrétiens de Corse?
Alors, je dirais d'abord pour tout le monde, parce que vous savez, Noël, c'est pas que les chrétiens qui fêtent Noël aujourd'hui, c'est tout le monde au fond. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont de confession musulmane que je connais qui fêtent Noël hein, à leur manière, mais bon. Donc, je dirais d'abord que ça soit pour tous une fête familiale. C'est souvent pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille, parce que malheureusement, certains n'en ont plus. Mais une fête où on met en valeur ces relations amicales, familiales, fraternelles, où on est capable de s'échanger des cadeaux. Non pas pour donner une avalanche de cadeaux, vous savez, parfois ça peut être une façon de se faire pardonner nos manques d'affection, mais au contraire, pour se dire simplement qu'on s'aime, que c'est important de vivre ensemble. Et puis bien sûr, pour les chrétiens, je dirais que cette fête de Noël soit l'occasion peut-être de s'émerveiller finalement devant ce Dieu. On dit qu'il est tout puissant, il l'est, et il se fait tout fragile, il se fait petit enfant, il vient sur la pointe des pieds dans notre humanité, dans notre vie, qu'on sache s'émerveiller devant ce Dieu, et puis donc l'accueillir, non seulement bien sûr l'accueillir, parce que le mystère de Noël c'est ça, il veut faire de notre cœur une crèche, l'accueillir dans nos vies, et puis aussi l'occasion de donner de l'importance précisément à ce qui est petit. Dieu s'est fait petit, s'est fait pauvre, c'est une invitation pour nous à être attentifs à tous ceux qui sont un peu sur la marge, sur le bord du chemin, qui sont pauvres, qui sont petits, les personnes seules, les personnes handicapées, c'est aussi tout ça le mystère de Noël.
Merci Monseigneur Olivier de Germay, qui était aujourd'hui l'invité du club de la presse. La semaine prochaine, nous recevrons Dominique Bouchini, ancien président communiste de l'Assemblée de Corse. Merci à Jean Vitus Albertini et à Ilurmu Padoani. On se retrouve la semaine prochaine.